Radio Éthique.
Écoute la planète.
Chaque jour, un tête-à-tête sur la planète, c'est l'invité de Radio Éthique. L'invité du jour est considéré par certains comme le pape de l'informatique publique et libre d'accès. Richard Stallman est le fondateur du GNU, le mouvement du logiciel libre. Il est le pionnier des défenseurs des droits de l'homme en tant qu'utilisateur. Jean Tonelli l'a rencontré à Genève lors du premier forum de l'innovation sociale et de l'éthique globale.
Le logiciel libre, c'est une belle idée. Ça consiste en quoi ?
Ça veut dire les programmes qui respectent les droits de l'homme de l'utilisateur.
Ça veut dire que dès qu'on utilise un logiciel marchand, il y a souvent des problèmes d'intégrité, d'éthique par rapport à ces gens qui fabriquent ces logiciels ?
C'est autre chose. C'est vrai, mais c'est autre chose. D'abord, le contraire de logiciel libre n'est pas logiciel marchand. Parce que le fait d'être commercial ou pas est autre chose. Il y a des programmes libres marchands et des programmes pas libres et pas marchands. Donc, il faut distinguer les caractéristiques. Le contraire de logiciel libre est logiciel privateur qui prive de la liberté à ceux qui l'utilisent. Chez le logiciel, où les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs. Le premier cas, c'est le logiciel libre. L'autre cas est le logiciel privateur. C'est vrai que les programmes commerciaux sont d'habitude privateurs, mais pas toujours. Il y a des exceptions dans les deux directions. Donc pour moi, le jugement éthique ne dépend pas du fait d'être commercial ou pas, mais plutôt de respecter les droits de l'homme de l'utilisateur ou pas. Que chez le logiciel privateur, le propriétaire ressent toujours la tentation d'utiliser son pouvoir sur les utilisateurs pour introduire des fonctionnalités malveillantes.
C'est quoi
une... Par exemple,
une...
d'espionner, de restreindre délibérément l'utilisateur. Ils mettent des portes dérobées pour attaquer l'utilisateur. Ils développent des systèmes pour imposer la censure aux utilisateurs. Il est très probable que, plus correctement, dans les programmes privateurs les plus connus, les fonctionnalités malveillantes sont communes.
Qu'est-ce que risque un utilisateur qui utilise un programme privateur par rapport à ses activités malveillantes du producteur du logiciel ?
L'utilisateur est la victime. Par exemple, Windows fait tous les quatre. Windows espionne les utilisateurs. Il contient des menottes numériques pour restreindre ce que l'utilisateur fait avec les données dans son ordinateur. Aussi, Windows contient au moins 3 portes dérobées, dont une porte dérobée universelle par laquelle Microsoft a le pouvoir d'imposer des changements de logiciel quand il veut,
ouais,
à distance. Et aussi dans Windows 8, Windows impose la censure des applications suivant le chemin d'Apple. Les systèmes d'Apple sont malveillants aussi, sont du malware. Et surtout le système des iThings, les monstres mobiles d'Apple qui font tous les quatre. Il y a des fonctionnalités pour espionner l'utilisateur, il y a des menottes numériques, il y a au moins une porte dérobée et il y a la censure. Apple était le pionnier d'imposer la censure des applications avec l'iPhone. Et les utilisateurs, quand ils trouvent des manières de rompre la censure, d'éviter la censure, ils l'appellent jailbreak, ce qui signifie t'échapper du prison. Reconnaissant que ces ordinateurs sont construits comme des prisons pour l'utilisateur.
Donc, le logiciel libre, lui, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à tout ça ?
Le logiciel libre est sous le contrôle des utilisateurs. Chaque utilisateur a le contrôle séparé du programme. Il est libre d'étudier et changer le programme comme il veut. Mais il y a aussi le contrôle collectif. Le contrôle séparé ne suffit pas parce que la grande majorité des utilisateurs ne savent pas programmer et ne vont pas changer les programmes individuellement. Mais les utilisateurs aussi profitent du contrôle collectif, c'est-à-dire que n'importe quel groupe est libre de collaborer dans l'exercice du contrôle du programme. Si tu utilises un programme libre et tu n'es pas programmeur, évidemment, tu n'es pas le seul utilisateur. Il y aura beaucoup d'autres dont quelques-uns savent programmer. Ces utilisateurs corrigeront quoi que ce soit qui est malveillant s'il y a quelque chose dans le programme libre. Et ils les corrigent pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres utilisateurs du programme. Chez le logiciel privateur, aucun utilisateur ne peut corriger les injustices du programme. Donc, tous les utilisateurs, qu'ils savent programmer ou pas, ne sont que des victimes.
Ce qui veut dire que dans les logiciels libres, il y a une forme d'éthique qui est liée au groupe de gens qui l'utilisent et qui le modifient dans le sens de la bienveillance.
Oui, c'est vrai. Ce contrôle du programme par les utilisateurs est la seule défense connue contre les fonctionnalités malveillantes.
Ton idée donc de ce logiciel, ça fait maintenant 30 ans que tu l'as eu.
Oui.
Il fonctionne, il a de plus en plus d'adeptes. Comment ça marche? Comment les gens peuvent...
Il est difficile de les compter, mais nous voyons que le logiciel libre diffuse dans le monde. Même dans des États, ils adoptent, mais pas tout à fait, le logiciel libre.
Alors ça, c'est très intéressant. Tout à l'heure, tu disais que les États devraient éviter d'utiliser des logiciels privateurs pour
Bien
leur
sûr.
Propre sécurité.
Pas seulement leur sécurité, je ne dirais pas toujours leur sécurité. Oui, c'est une portion, mais plus généralement, c'est leur souveraineté informatique. L'État fait son informatique pour le peuple.
Oui.
Donc l'État a la responsabilité devant le peuple de maintenir toujours son contrôle de cette informatique, son contrôle absolu de cette informatique. Donc l'État ne doit jamais utiliser un programme privateur, quoi que ce soit. L'État doit utiliser uniquement du logiciel libre. Quand l'État paye le développement d'une solution informatique, le contrat doit exiger que cette solution soit livrée entièrement comme du logiciel libre et qu'elle soit capable de fonctionner sur une plateforme libre, dans un environnement libre.
Avec les codes sources et tout pour pouvoir retravailler. Est-ce que ton logiciel à toi a servi à des États? Tu le sais
bien
pas
sûr.
Oui, bien.
Bien sûr, nous savons que ça a utilisé le système GNU avec noyau Linux et assez utilisé dans les agences publiques de plusieurs pays. Mais il faut surtout enseigner uniquement du logiciel libre dans les écoles de tous les niveaux. Parce que la mission de l'école est de former des bons citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Mais d'enseigner un programme privateur veut dire de semer la dépendance vers quelqu'un qui contredit la mission sociale de l'école. Il faut ne jamais le faire pour l'éducation morale dans la citoyenneté.
Oui.
L'école doit enseigner l'esprit de bonne volonté, l'habitude d'aider les autres. Donc l'école ne doit pas dire aux élèves « il est interdit de partager ce programme ». Au contraire, chaque classe doit avoir la règle suivante. Les élèves, si tu apportes un programme à la classe, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois partager des copies avec le reste de la classe, y compris son code source, pour le cas où quelqu'un va apprendre.
Et pourquoi tu n'as pas de portable, de téléphone portable?
Oh, parce que le téléphone portable dit à chaque instant où il est situé. Aussi, le logiciel contient une porte dérobée universelle par laquelle quelque entreprise a le pouvoir d'imposer à distance des changements de logiciel. Cette porte dérobée a été utilisée pour convertir des téléphones portables en dispositifs d'écoute qui écoutent tout le temps et transmettent toutes les conversations intéressantes. Je ne veux pas porter la rêve de Staline avec moi.
Ouais.
Donc, je n'ai pas de portable.
Est-ce que tu serais un peu anarchiste?
Un peu, mais je ne suis pas anarchiste. Parce que nous avons besoin de l'État pour faire beaucoup de travaux essentiels pour réglementer les industries, pour qu'il ne nous fasse pas mal. La pollution toxique du vol, les banques aux États-Unis ont fait systématiquement du fraude pour prendre les maisons des gens.
Il y avait des crédits.
Mais les banques ont menti aux tribunaux systématiquement. Et l'État avait peur de les mettre en justice comme il fallait. Mais un bon État l'aurait fait. Mais l'État doit être démocratique. Le peuple doit maintenir son contrôle sur l'État. Et je peux dire que le logis libre combine des idées capitalistes avec des idées socialistes et des idées anarchistes. Mais pour le système communiste, il faut aller chez Microsoft ou Apple ou Oracle.
Ouais. Là, ils sont sûrs que ça marche.